débat du jour, Benoît de Solmignac.
2011 sera-t-elle l'année des grandes réformes de la gouvernance économique mondiale ? Difficile de se prononcer si tôt dès le mois de janvier, mais les ambitions semblent être là. Ambition affichée par Nicolas Sarkozy, car c'est la France qui préside cette année les G8 et G20. Le président de la République était hier à Washington pour tester en quelque sorte ses objectifs auprès de Barack Obama. Et parmi ses objectifs, eh bien, on retrouve la volonté d'établir un nouvel ordre monétaire international et aussi une nouvelle gouvernance planétaire. Nicolas Sarkozy réclame plus de multilatéralisme. Alors, à la table des pays les plus industrialisés, des chaises ont déjà été ajoutées pour les pays émergents, mais quid aujourd'hui des pays en voie de développement, quid en particulier des pays africains, d'où cette question qui nous occupe aujourd'hui. Quelle place pour l'Afrique dans le G20? Pour y répondre, trois invités. Christian de Boissieu avec nous en studio, bonsoir.
Bonsoir.
Christian de Boissieu, économiste, président du Conseil d'analyse économique, auteur également d'un article, l'Afrique et la nouvelle gouvernance économique mondiale, paru l'année dernière dans Géopolitique africaine. Également avec nous en ligne de New York, Yves Ekwueamaizo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste togolais, directeur du think tank Afrologie, auteur de Crise financière mondiale, des réponses alternatives de l'Afrique aux éditions Menaebuk. Et enfin, lui aussi au téléphone, mais à Dakar, Demba Moussa Dembélé, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, altermondialiste et membre du comité d'organisation du Forum social mondial 2011 à Dakar. Alors, les présentations sont faites, on va passer au vif du sujet avec cette première question. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'on se pose une telle question de la place de l'Afrique dans le G20? Est-ce la crise et ses conséquences qui légitimeraient aujourd'hui une présence africaine au G20? Peut-être vous, Christian de Boissieu, pour commencer.
Ce qui a changé, c'est que le monde a changé d'abord. Il y a de nouveaux équilibres qui s'installent, qui s'installaient déjà avant la crise et qui ont été accélérés par la crise. Je pense à la montée de l'Asie, mais je pense aussi à la montée de l'Afrique. Et il faut absolument, j'allais dire, traduire ces nouveaux équilibres dans les institutions et dans la gouvernance mondiale. Deuxième remarque, je trouve que l'installation dans le paysage mondial du G20 est une bonne chose, par rapport au G7, G8 en tout cas. Moi, je préfère le G20 au G7, G8, et je pense qu'à terme, le G7, G8 n'a plus de raison d'être. Simplement, vous posez le problème de la composition du G20. Moi, ça fait, depuis le début, depuis 2 ans, je pense que l'Afrique est sous-représentée dans le cadre du G20, puisqu'il y a un seul pays qui est l'Afrique du Sud. Je parle pas de la représentation régionale à travers le président de la Commission africaine, de la même manière que Monsieur Barroso, président de la Commission européenne, siège autour de la table, mais donc il y a un vrai sujet. 53 pays de l'Union africaine sont représentés par un seul. C'est-à-dire qu'il y a une sous-représentation de l'Afrique et une sur-représentation d'autres régions, dont sans doute l'Europe. J'ai beau être européen, je me permets de dire ça. Ouais. Et troisième sujet, pour ne pas être trop long là-dessus d'emblée, je pense qu'il faut revenir ensemble sur les questions traitées, parce que la question de savoir qui est autour de la table ne peut pas être séparée de la question de savoir quels sont les sujets qu'on traite. Alors la France amorce cette présidence du G20 de manière ambitieuse en ayant rajouté des sujets, la réforme du système monétaire international, ouais, la volatilité des prix des matières premières, les déséquilibres internationaux. On n'a pas fini sur le thème de la régulation bancaire et financière, mais je pense que sur ces différents sujets, l'Afrique, la présence de l'Afrique et une meilleure représentation de l'Afrique, ça serait c'est très important.
Alors effectivement, beaucoup de questions, on va y revenir. On va peut-être demander à Yves Ekwueamaizo justement son sentiment. Est-ce que effectivement, c'est la crise et surtout ses conséquences en Afrique, crise alimentaire, crise du développement, crise de l'aide également, qui découle un petit peu de la crise financière, qui font qu'aujourd'hui, la voix de l'Afrique est nécessaire au niveau international?
Absolument. Écoutez, je vais renforcer ce que dit le professeur. Et 5% de croissance, en gros, pour l'Afrique et les pays émergents, peut-être même plus d'ailleurs, et 1% ou 2% pour les pays riches. Donc, on a quand même le monde à l'envers. C'est quand même les pays émergents et les pays africains qui soutiennent la croissance mondiale. Donc, voici un premier changement. Le deuxième, c'est qu'on a mis de côté pendant des années le multilatéralisme, quels que soient ses écueils et ses difficultés. Et on a privilégié une forme de bilatéral qui ne dit pas son nom, et dans laquelle il y avait d'ailleurs des plus puissants et des moins puissants. Et je crois qu'on est revenu là-dessus. Encore, c'est la crise qui fait cela. La troisième chose, malgré tout, il y a quand même une certaine responsabilité dans cette crise, la dérégulation, et que ça ne fonctionne pas. Et sur ce plan, ceux qui n'étaient pas justement très intégrés comme l'Afrique l'ont subi autrement, en tout cas par voie de conséquence. Et puis très important, les participants, il y a quand même ce que j'appelle moi le G172, ceux qui ne sont pas justement au G20 que vous retrouvez à l'ONU. Donc il y a un problème de fond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui dans ce monde à parler que du Conseil de sécurité. Il va falloir réfléchir à un Conseil appelez-le économique et social, ce que vous voulez, ou de régulation, mais en tout cas, il y a un autre mode d'organisation du monde qui doit tenir compte de l'économie et du social, et au fond, il s'agit simplement d'organiser la transformation.
Est-ce qu'on ne demande pas trop aujourd'hui aux pays africains, aussi bien au niveau international politique, c'est-à-dire au niveau, par exemple, du Conseil de sécurité des Nations Unies, et au niveau économique, est-ce qu'on ne leur reproche pas à la fois, finalement, de ne pas être assez crédible démocratiquement et de ne pas avoir suffisamment de poids économique, peut-être Demba Moussa Dembélé, sur cette question ?
Oui, mais je pense que les critères démocratiques, qu'est-ce qui les définit ? Je pense qu'il ne faut pas reprocher à un pays d'être non démocratique pour ne pas lui donner la place qu'il mérite, soit au Conseil de sécurité, soit au sein du G20. Pour le poids économique, je pense que, comme l'a dit Yves, au cours de ces dernières années, avant la crise, en tout cas de 2008, l'Afrique a eu des taux de croissance assez importants, de 5, 6, voire 7%. Et d'autre part, l'Afrique regorge de matières premières dont tout le monde a besoin. Bon, quand on dit que l'Afrique est marginalisée au niveau du commerce international, je pense qu'il faut relativiser cela. Et on parle aujourd'hui de multilatéralisme, on parle de démocratisation des institutions, de la gouvernance mondiale. Par conséquent, je crois que l'équité, la justice, tout simplement, demande que l'Afrique soit présente. Non seulement au niveau du Conseil de sécurité, mais également au niveau du G20 ou au niveau partout où se prennent des décisions qui affectent le monde entier. Et l'Afrique, 53 pays, près de 700 millions, voire 1 milliard de personnes, on ne peut pas laisser ce continent de côté et prétendre qu'on décide pour le monde. C'est pas possible.
Alors c'est intéressant que vous parliez justement de démocratisation de ces instances, du G20, du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire également, eh bien ces institutions n'ont jamais été, à proprement parler, démocratiques, peut-être plus élitistes, j'ai envie de dire, Christian de Boissieu.
Bon, il y a du côté français en tout cas, mais il n'y a pas que la France, la volonté de changer ça. Écoutez les dernières déclarations de notre président de la République, d'élargir la composition, de rééquilibrer la composition. Et là, je reviens sur le G20. Même si le G20, bien sûr, il n'y a pas tous les pays autour de la table, et j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait une meilleure représentation, je veux dire, accrue de l'Afrique. Moi, je serais pas choqué qu'il y ait 3 pays africains, par exemple, l'Afrique du Sud et 2 autres autour de la table.
Et pas forcément une voix qui parle pour toute l'Afrique.
Non, mais de la même manière que Monsieur Barroso, il parle pas nécessairement pour toute l'Europe, il a beau être président de la Commission européenne, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a autour de la table, il y a la France, il y a l'Allemagne, etc. Donc je crois qu'il faut pas être naïf, il faut corriger cette surreprésentation de l'Afrique. Et il faut aller dans le sens de plus grande transparence et aussi efficience. Transparence, le G20 doit être beaucoup plus transparent qu'il est, et efficience, il faut articuler les deux étages de la fusée. Que ce soit 20, 25, j'allais dire, chefs d'État et de gouvernement qui se concertent sur les grands sujets, parenthèse, ils peuvent pas prendre de vraies décisions. Le G20 prend pas formellement de décisions, ils se retournent vers les organismes qui prennent des décisions. Le Fonds monétaire international, l'ONU, etc. Donc, le problème qui est posé par nos amis, et sur lequel je reviens, c'est mieux articuler les deux étages de la fusée. Pour moi, ça relève de la démocratie, de la transparence. Mieux articuler l'étage G20 et l'étage ONU. Et sur ce terrain-là, je trouve qu'on ne fait pas assez de progrès. Pas assez rapidement.
Alors, Christian de Boissieu posait la question de comment représenter l'Afrique. Est-ce que ça doit être plusieurs pays? Ou alors, y a-t-il des pays qui seraient plus légitimes que d'autres sur le continent? Ou alors, est-ce que le continent devrait avoir uniquement un siège chargé de le représenter intégralement? Yves Kouamaïzou, vous prenez, vous, un G21 avec un siège pour l'Afrique?
C'est une position minimaliste. Il faut au moins d'abord qu'on soit dans la décision, ce qui n'est pas tout à fait le cas. On est plutôt observateur actuellement. J'ai entendu beaucoup parler d'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud se représente elle-même. C'est un pays émergent.
Tout à fait. C'est un petit peu l'exception africaine.
Voilà, mais bon, c'est quand même l'Union africaine en fait qui représente, et notamment oui, le président éthiopien qui joue ce jeu-là. Mais alors, pour le nombre, sincèrement, si vous me demandez, moi, nous avons 5 régions en Afrique, sans compter d'ailleurs la diaspora qui est la 6e région. Si vous me demandez, il en faut 6. Bon, maintenant, il faut être sérieux. Donc, en demandant déjà un et qu'il puisse avoir une voix décisionnelle, c'est qui n'est pas une mauvaise chose, même si cette voix est souvent minoritaire. Il faut d'abord aller pas à pas. Je pense que c'est d'abord le premier pas. Tout ce que dit le président Sarkozy va dans ce sens-là. Et j'espère qu'il ira jusqu'au bout de sa démarche et qu'il sera soutenu ici aux États-Unis par cette démarche-là, qu'au moins il y a une voie décisionnelle. Maintenant, sur les 5 ou les 3 qui sont proposés, il y a quelque chose de plus profond, fondamental qu'a dit le professeur. Les décisions ne se prennent pas au G20. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut revoir complètement comment fonctionne par exemple l'ONU. Écoutez, nous avons des institutions qui font de l'industrie, la FAO, l'agriculture, l'UNESCO, etc. Et ça a été découpé en 45. Et aujourd'hui, le monde est interdépendant et rien ne fonctionne sur les bases de la spécialisation. Au contraire. Donc, il va falloir se poser la question, faut-il continuer, chaque fois que je parle d'une usine agroalimentaire, de le couper en 5, quelqu'un fait l'industrie, quelqu'un fait l'agriculture, quelqu'un fait la santé, etc. Donc, vous voyez, c'est un problème de fond qui a été posé d'ailleurs par le président Sarkozy, je crois, en Suisse, et qu'à l'époque, je m'appelle, tous les journalistes avaient pensé qu'il prenait ça à la légère, mais il a un côté visionnaire qu'il va falloir peut-être prendre plus au sérieux, parce que je crois qu'il y a un gros problème, sinon c'est un problème de crédibilité de l'ONU même, dans son mode de fonctionnement, et qui pose un vrai problème. Donc, pour résumer, les problèmes sont interdépendants, les institutions ne suivent pas, le bilatéralisme ne permet pas de gérer ce problème-là, donc il va falloir revoir comment nous organisons ce multilatéralisme. Et à ce propos-là, je reviens à ce qui se dit actuellement, soutenir par exemple le Fonds monétaire international, peut-être, mais nous, Africains, on souhaiterait qu'il y ait aussi un Fonds monétaire africain.
Alors, on va se tourner vers Demba Moussa Dembélé. Vous partagez ce sentiment? Selon vous, il y a une véritable volonté d'élargissement du G20 aux pays africains, comme le prône Nicolas Sarkozy, ou alors on fait un peu semblant de donner des gages à l'Afrique, et comme ça depuis plusieurs années?
Oui, vous savez, le problème n'est pas d'ajouter des chaises par politesse. Encore faut-il qu'on écoute les Africains et qu'on prenne en compte leurs préoccupations. Je suis d'accord qu'il faut absolument qu'on augmente le nombre de participants du côté africain. 2 ou 3 autres pays, plus, pourquoi pas, les unions régionales. Par exemple, la CEDEAO, du côté de l'Afrique de l'Ouest, ou la SADC, du côté de l'Afrique australe, peuvent bien en plus de l'Afrique du Sud, bien sûr, et de l'Union africaine, et de notre pays, pourquoi pas l'Égypte, ou le Kenya, ou le Nigeria, ou le Maroc, je ne sais pas. Donc, il y a un problème de légitimité qui se pose ici. Yves disait tout à l'heure qu'il y a un problème de crédibilité au niveau des Nations Unies, mais pour les G20, il y a un problème de légitimité. Les G20 est un peu plus légitime, bien sûr, que les G8, mais pour être encore plus légitime, il faudrait que l'Afrique ait toute sa place. Parce que le rôle d'observateur, pratiquement, ne signifie rien du tout. Parce que les décisions se prennent au niveau des réunions du travail en amont fait par les gouverneurs des banques centrales et les ministres des Finances. Le sommet lui-même ne fait qu'entériner ses décisions.
Demba Moussa Dembélé, cette question justement de la place de l'Afrique dans le G20, apparemment vous semblez tous les trois être d'accord là-dessus, mais si cette place est plus grande, était donnée aux pays africains, qu'est-ce qu'ils en feraient? Qu'est-ce que l'Afrique finalement peut apporter à ces institutions dont elles n'ont pas l'habitude de la pratique?
Mais écoutez, elle peut d'abord être à la table et dire quelles sont ses préoccupations par rapport au système monétaire et financier international, par rapport au système commercial international, par rapport à la gouvernance mondiale, parce que même au niveau du FMI, plutôt au niveau de la Banque mondiale, par exemple, on a fait une place supplémentaire à l'Afrique par l'intermédiaire de l'Afrique du Sud. Mais est-ce que c'est suffisant? Pour moi, non. Mais non seulement faudrait-il augmenter le nombre de participants, mais encore mieux écouter les préoccupations de l'Afrique et ne pas seulement ajouter des chaises pour faire de la politesse en disant oui, on les a trop marginalisés, il est temps de leur faire un peu de place, sans pour autant prendre en compte leurs préoccupations. Et l'Afrique a des préoccupations sur dans tous ces domaines, et je pense que plusieurs interlocuteurs africains peuvent décliner ces différentes préoccupations, et j'espère surtout que les autres membres du G20 écouteront les pays africains et feront droit à leur doléance.
À Christian de Boissieu, vous vouliez intervenir sur cette question.
Là-dessus, d'abord l'Afrique, elle doit avoir son mot à dire sur tous les sujets traités depuis le début de la crise en 2007. Et je pense par exemple à la réforme de la régulation bancaire et financière, même si les banques africaines ont été peu touchées par la crise des subprimes, veut dire, on est en train de, à Bâle, à Bruxelles, au FMI, s'agit de revoir les règles du jeu de la finance mondiale, ça concerne l'Afrique comme ça concerne les autres continents. Deuxièmement, je pense que l'Afrique a une sensibilité très forte à exprimer sur des sujets qui sont maintenant autour de la table du G20. La volatilité des prix des matières premières, y compris agricoles, ça c'est un sujet qui concerne tous les pays, mais ça concerne l'Afrique en particulier. Et l'arrivée de la Chine en Afrique dans la filière des matières premières ne va pas régler tous les problèmes. Donc je crois qu'il ne faut pas considérer que Chine et Afrique, ça évite de se poser le problème de la volatilité des prix. Et dernier exemple, nous sommes très en retard au plan mondial dans la réalisation des objectifs du millénaire, la réduction de la pauvreté, la lutte contre la pauvreté. Là, c'est un sujet sur lequel l'Afrique a une sensibilité particulière et doit l'exprimer autour de la table du G20 aussi.
Yves Kouamaiso, là-dessus ?
Alors là-dessus, écoutez, l'Afrique va d'abord défendre les intérêts africains, parce qu'après tout, on ne peut pas systématiquement être servi comme une variable d'ajustement, encore moins passer notre temps à écouter ce qui se dit ailleurs, et puis essayer d'y réagir ou de s'y adapter. Donc le premier problème, quand je parle de décision, c'est que l'Afrique défend ses intérêts. Bon, le deuxième point très important qui a été dit, sur tous ces problèmes de régulation jusqu'à Bâle III, après tout, l'Afrique n'a jamais proposé de délocaliser, l'Afrique n'a jamais proposé de déréguler. Donc quand on parle de banques, la réalité, regardez bien les banques africaines, elles ne sont pas toujours africaines. Donc il y a un autre problème de fond qui est la marge, pour moi, la marge commerciale, surtout la marge budgétaire d'un État. Et vous savez, la difficulté, je suis aux États-Unis actuellement, dans 3 mois, si rien ne change ici, nous avons un État américain qui est banqueroute, qui ne pourra pas payer. Il va falloir que le Congrès change un peu les règles. Alors qu'est-ce qui se passe du côté africain ? Beaucoup d'États sont dans cette situation-là. Pour ça, je reviens au rôle du Fonds monétaire africain et du Fonds monétaire international. Il faut trouver une institution qui permette, quand les États ont des difficultés de balance de paiement, de s'organiser de telle manière qu'ils puissent trouver des solutions intelligentes et qui ne vaillent pas uniquement à l'encontre des intérêts des populations. C'est tout le problème des plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Alors, renforcer ce Fonds monétaire international sur le fond, pourquoi pas, mais ça ne peut pas se faire dans un cadre multilatéral sans penser au Fonds monétaire asiatique, Fonds monétaire africain, Fonds monétaire andin, quel que soit le nom, ou le Fonds de stabilisation européen, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc vous voyez, c'est un débat de fond et je crois qu'il faut redonner le rôle aux intellectuels et aux gens qui connaissent des structures qui existent comme Christian de Boissieu dirige et bien d'autres encore de think tank pour réfléchir au sujet. Ce n'est plus un rôle des politiques. Moi je suis très, très sévère là-dessus. Il faut revenir à des gens sérieux qui puissent discuter des options et des alternatives et puis les politiques feront leur travail une fois que les alternatives seront sur la table.
Alors il ne nous reste plus beaucoup de temps pour évoquer encore la question suivante. Moi je voulais savoir si à contrario de tout ce qu'on a dit à présent, à savoir qu'aujourd'hui l'Afrique méritait une place au G20. Est-ce que finalement le fait d'accorder une place à l'Afrique dans ces institutions, ce serait pas finalement la preuve de confiance qui permettrait de tirer vers le haut économiquement et politiquement les pays africains, Demba Moussa Dembélé peut-être là-dessus ?
Non, c'est sûr que il faudrait que l'Afrique soit à la table où se prennent des décisions majeures qui affectent le monde. C'est vrai. Mais je pense que les vraies questions se trouve à l'intérieur de l'Afrique. Est-ce que les gouvernements africains sont prêts à réformer leur politique pour prendre en compte les besoins et les priorités de leur peuple ? Jusqu'à présent, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que les institutions financières internationales, Banque mondiale FMI, d'une part, et l'OMC, d'autre part, dictent les règles du jeu. Maintenant, il est temps que les Africains, eux-mêmes, se disent « Mais écoutez, on ne peut plus obéir à des forces extérieures, il faudrait que nous-mêmes définissions nos propres règles, bien sûr en concertation avec le reste du monde, en prenant en compte les règles de la gouvernance mondiale, certes, mais en nous disant que c'est notre responsabilité de définir nos politiques. Donc, s'asseoir à la table du G20, c'est une bonne chose. Encore faudrait-il que les Africains soient cohérents avec eux-mêmes, viennent avec des projets précis, avec des idées précises, avec des revendications précises, et que les autres les écoutent. Mais pour être écouté, il faut que les Africains soient solidaires entre eux.
Et ce sera le mot de la fin. Je suis désolé, Demba Moussa Dembélé. Beaucoup, beaucoup de choses à dire, effectivement, sur cette question. Je vous remercie, messieurs. Christian de Boissieu, Yves Kouamaiso à New York et Demba Moussa Dembélé en ligne de Dakar d'avoir accepté notre invitation à ce débat.